Chapitre 36. Une dizaine d'éboulements se produisirent sur une portion d'à peine 5 kilomètres. À chaque fois, il leur fallait s'arrêter, dégager les camions, les voitures ou les remorques ensevelies sous les coulées de terre, étayer la voûte et les parois à l'aide de pierres et de barres de fer arrachées au plancher des remorques, puis déblayer la galerie, le tout dans une atmosphère poussiéreuse, étouffante. Cependant, comme la consigne avait été donnée aux passagers de s'abriter sous les tables, sous les couchettes ou sous toute autre surface rigide pouvant servir de bouclier, on ne recensa qu'une poignée de blessés légers, égratignés par les éclats de verre ou projetés contre les cloisons. Deux camions perdirent leur pare-brise, pulvérisés par des pierres, mais réussirent à repartir après un rapide nettoyage de la cabine et du moteur.
Ce qui me fait peur, surtout, c'est qu'un réservoir se met à fuir,
haleta Moram en sueur en s'installant au volant.
Il avait tombé la veste, puis la chemise et le maillot de corps, et c'est torse nu désormais qu'il participait aux corvées de déblais. Ses muscles épais roulaient comme des vagues convulsives sous sa peau rasée, luisante. Des griffures et des rougeurs lui parsemaient la nuque, les épaules et le dos, sans doute laissés par les ongles et les dents de ses maîtresses.
Imagine que ça explose dans ce putain de boyau,
poursuivit-il en enfilant son maillot de corps.
On serait pulvérisé par le souffle. Comme ça.
Il claqua des doigts pour souligner son propos. Solman lui accorda un regard en coin mais ne répondit pas. Le contact avec la main de Khadija l'absorbait tout entier, le dissuadait même de descendre de la cabine lorsqu'une sirène faisait entendre ses 3 ululements. Il s'était astreint à déplacer les pierres et la terre lors des premiers effondrements, puis la douleur à sa jambe s'était associée à la présence silencieuse de la jeune femme pour le river à la banquette. Ses maigres remords s'étaient définitivement estompés lorsque la main de Khadija s'était glissée dans la sienne et qu'ils avaient amorcé une communication silencieuse. Curieusement, cette tentative de rapprochement, la deuxième après leur bref échange dans le marais du littoral méditerranéen, s'effectuait encore une fois dans la cabine d'un camion. La menace minérale avait remplacé le danger des sauterelles. La banquette était un peu plus confortable, un peu moins défoncée que celle du camion de Tchak. Les relents d'huile moins oppressants, mais l'atmosphère confinée, métallique, était à peu près la même.
Vivement qu'on sorte de ce merdier,
maugréa Moram. Il embraya et roula en essayant de percer du regard les rideaux de poussière enluminés par les phares. Il devait en appeler à toute sa raison pour ne pas écraser la pédale d'accélérateur, et l'extrême lenteur de leur allure commençait à lui taper sur les nerfs. Ça, le litre de kawa qu'il s'était enfilé, et le mutisme déconcertant du donneur depuis que la fille était montée dans la cabine. Il aspirait à la lumière, à l'air pur, aux étendues de neige coiffées de l'infini du ciel, au corps à corps également, avec l'une de ses maîtresses. Jasbeth, la brune aux formes pleines. Elle s'était séparée de son mari pour le suivre, et même si cette décision avait été facilitée par le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, c'était le moindre des hommages à lui rendre. Khadija n'avait jamais été une petite fille, ou n'avait gardé aucun souvenir de son enfance. Sa mémoire contenait un savoir gigantesque qui semblait constitué de représentations générales, de concepts, d'observations, d'analyses. Elle était comme une fenêtre donnant sur l'immensité, mais qui restait fermée, hermétique, comme si elle refusait d'être assimilée au monde qu'elle contemplait. Elle n'éprouvait pas d'émotion, peu de sensations, et pratiquement aucun sentiment. Pourtant, lorsqu'elle s'était livrée à la vision clairvoyante de Solman dans la cabine du camion de Tchak, il avait capté, ou cru capter, le chant de sa source. Cette douceur et cette compassion inépuisable qui faisaient tant défaut aux derniers hommes, et dont lui-même avait le plus grand besoin. Mais peut-être son don avait-il eu sur elle le même effet que sur les aquariotes et les autres nomades.
Peut-être avait-il spontanément perçu sa vérité cachée de la même manière qu'il détectait les intentions dissimulées ou inconscientes chez les hommes et les femmes soumis à son jugement. Il ressentait toujours cette impression de légèreté, de fluidité, de neutralité. Le monde de Khadija n'avait rien d'un frottement douloureux avec la matière. Il aurait probablement eu quelque chose d'idyllique, d'angélique, si Solman n'avait pas discerné la sourdine désespérante d'une blessure, d'une faille, d'un manque. Il n'appartenait pas à cette terre, mais il y était relié par un cordon qui avait été tranché et dont les deux extrémités se recherchaient avec une maladresse désarmante. Khadija elle-même ne savait pas comment s'y prendre pour se frayer un chemin jusqu'à Solman. Aucun des outils forgés par sa formidable connaissance, aucune de ses fantastiques capacités physiques et mentales ne lui était d'un quelconque secours. Une muette ordinaire se serait débrouillée pour communiquer par le regard, par l'expression, par l'attitude. Elle restait immobile, atone, passive, comme si elle estimait avoir accompli sa part en s'installant dans la cabine et en lui confiant sa main. De temps à autre, Solman captait dans ses pensées l'image d'un pantalon baissé et d'un sexe dressé comme une épée malfaisante au-dessus de sa tête. La tentative de viol de Chuck la renvoyait à un compartiment de sa mémoire où étaient entreposées des archives d'atrocités collectives, d'hommes en train de maltraiter des femmes, de femmes en train de tuer des enfants, d'enfants en train de décapiter des vieillards. Solman se rendit compte qu'elle n'avait pas vécu ce passé, qu'on lui avait implanté ses souvenirs comme des mises en garde, comme ces principes qu'on assène aux gosses afin de développer leur méfiance, leur réflexe. Quelqu'un. Qui ? L'intelligence destructrice s'était appliquée à salir, à nier l'être humain en elle. Elle avait donc dû vaincre ses peurs, transgresser son conditionnement pour venir le rejoindre. D'abord, surmonter son appréhension de la gravité. Elle qui avait toujours habité un univers clos où on se déplaçait sans aucun effort. Lorsqu'elle avait repris connaissance dans la pièce sombre de la demeure souterraine d'Ismaïl, elle était restée pendant plusieurs jours allongée sur le lit, écrasée par la pesanteur, meurtrie par les bruits. Le moindre mouvement lui réclamait une énergie considérable. Il lui avait fallu plus de 5 jours pour réussir à se lever, puis 3 jours supplémentaires pour esquisser ses premiers pas. Elle s'était effondrée à plusieurs reprises sur le sol, comme un homme ivre, comme Chuck, lorsqu'elle lui avait tordu les testicules. Elle savait qu'Ismaïl et ses amis étaient là pour l'accueillir et l'épauler dans son expédition. Mais elle avait rencontré les pires difficultés à vaincre son appréhension, à s'accoutumer à leur odeur, à leur vacarme, à la grossièreté de leur aspect et de leur manière. Comparée à l'endroit d'où elle venait, la terre des hommes lui faisait l'effet d'un gigantesque étau aux mâchoires implacables d'un broyeur assourdissant. Là-bas, elle n'avait besoin que d'une quantité minime d'oxygène pour maintenir la pérennité de ses cellules. Ici, elle devait, pour obtenir le minimum vital, prendre d'interminables inspirations et composer avec un air surchargé de particules délétères, mortifères. Solman essaya d'orienter sa vision pénétrante sur le monde de Khadija, mais il ne distingua rien d'autre que les salles et les couloirs déjà entrevus, ouverts sur le ciel étoilé. Elle ressentait la nécessité impérieuse de partager avec lui la souffrance de son arrivée sur son monde, cette compression brutale dans l'espace-temps à laquelle lui-même, bien que né sur Terre, avait déjà tant de mal à se plier. Lorsqu'elle s'était sentie prête, elle avait quitté la demeure souterraine d'Ismaïl pour essayer de rejoindre une sœur envoyée 70 ans en temps terrestre plus tôt et chargée de préparer le terrain. Solman discerna la silhouette élancée d'une jeune femme semblable à celle de Khadija. Il crut comprendre que cette sœur avait perdu tout contact visuel et mental avec sa tribu, son peuple, ou l'entité qu'il avait chargé d'établir un contact avec les derniers hommes. Son armure de pureté n'était pas parvenue à la protéger de la souillure humaine et avait volé en éclats. On ne savait rien de la réaction des saints, du moins c'est ainsi que Solman tendait spontanément à appeler les semblables de Khadija, descendus dans la fosse aux hommes. S'orientant grâce à sa boussole intérieure, une boussole biologique qui indiquait la direction de la sœur perdue, Khadija s'était mise en route vers le littoral méditerranéen. Elle avait marché un long moment dans le marais, empruntant les sentiers de terre, fascinée par les reflets des buissons, des roseaux et du ciel sur le miroir croupi et sombre de l'eau. Lancé à sa poursuite, Ismaïl et un de ses amis l'avaient rattrapé 2 jours après son départ. Ils avaient utilisé pour la retrouver un drôle d'engin à moteur tout en hauteur qui glissait aussi bien sur l'eau que sur la terre et qui répandait à des lieues à la ronde une forte odeur d'alcool brûlé.
Hey, ça ne se fait pas de quitter les amis sans prévenir, s'était exclamé Ismaïl.
Il était descendu de son perchoir et s'était approché d'elle. À nouveau, elle avait dû surmonter sa terreur des hommes. Il lui avait tendu une étoffe claire et soigneusement pliée. Ça ne se fait pas non plus de se balader toute nue, même quand on est une belle femme. Elle avait saisi l'étoffe et l'avait dépliée. Elle n'avait pas songé aux vêtements parce qu'elle ne se souvenait pas d'en avoir un jour porté. Comme elle ne savait pas par quel bout prendre la robe, Ismaïl la lui avait reprise des mains et enfilée d'autorité. Elle n'avait pas aimé les attouchements involontaires du vieil homme sur ses épaules et ses bras, et pas davantage le contact du coton sur sa peau. Il s'en était rendu compte, s'était reculé, et l'avait contemplé avec une moue narquoise.
« Si je vous laisse aller seul dans cette absence de tenue, vous n'aurez pas l'ombre d'une chance d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu. Nous sommes les Albins désormais. Moi, je serai Ismaïl, et je me présenterai comme votre grand-père. »
Elle comprenait ces paroles, car tous les langages humains, même disparus, étaient inscrits dans sa mémoire. Mais elle se révélait incapable d'articuler le moindre son. Parler lui paraissait un moyen de communication inapproprié, sommaire, discordant.
« Vous avez besoin d'un accompagnateur, » avait ajouté Ismaïl.
« La personne que vous recherchez a sans doute failli parce qu'elle ne connaissait personne ici-bas. » Elle n'avait ni acquiescé ni refusé. Elle s'était remise en route, oubliant cette entrave de coton qui l'empêtrait à chacune de ses foulées. Après avoir congédié son compagnon d'un signe de main, Ismaïl lui avait emboîté le pas. Le grondement du glisseur avait peu à peu décru, et le marais avait recouvré cette paix ensorcelée propre aux eaux mortes.
« Vous savez où vous allez ?» avait demandé Ismaïl.
Elle lui avait décoché un regard perplexe, puis s'était souvenu que les êtres humains, eux, n'avaient jamais su où ils allaient.
Si quelqu'un pouvait me dire dans quel putain de merdier on vient de foutre les pieds, ça m'arrangerait.
Solman sursauta, ouvrit des yeux effarés, se rendit compte que Khadija n'était plus à son côté.
Si tu cherches la fille, je te signale qu'elle est descendue il y a de ça plus d'une demi-heure, dit Moram.
Je signale par la même occasion qu'on a dû s'arrêter à cause d'un nouvel éboulement. Un balèze qui a bousillé une citerne. Enfin, je te ferai respectueusement remarquer qu'on est sorti de cette putain de galerie.
Il ne précisa pas qu'il avait mis à profit le dernier effondrement pour rejoindre Jazbet au milieu du convoi et qu'il s'était étourdi dans une brève mais ébouriffante étreinte derrière le repli d'une paroi. Le regard hébété de Solman se porta machinalement sur les faisceaux des phares qui balayaient un espace dégagé, révélaient une terre hérissée de crêtes rocheuses, caressaient sur les côtés les formes étranglées de stalagmites, se perdaient au loin dans une obscurité indéchiffrable.
« Ça fait un petit moment qu'on roule dans cette grotte, » reprit Moram. « On dirait qu'elle a pas de fin. Un vrai labyrinthe. T'as pas une vision, même toute petite, qui pourrait nous indiquer la sortie ?»
Solman secoua la tête. Khadija, où est-elle partie ?
Demanda-t-il d'un ton hésitant. Dans la voiture de son grand-père, je suppose. T'en pinces drôlement pour elle, ma parole. Remarque, y a pas de mal. Elle est plutôt... » Moram n'alla pas au bout de sa phrase. Les mots lui manquaient pour décrire Khadija. Il répartissait les femmes en plusieurs catégories. Belle, laide, désirable, repoussante, aimable, sèche, intelligente, stupide. Et elle ne se gênait sûrement pas pour faire la même chose avec les hommes. Mais Khadija, elle, échappait à toute classification, à toute comparaison. Sa beauté irréelle créait une distance, une appréhension qu'accentuait son mutisme et le hiératisme de ses traits. Contrairement à cet obsédé de Tchak, l'idée ne l'aurait jamais effleuré de se frotter à une fille pareille. L'immensité de la grotte assourdissait les ronflements des moteurs. Solman apercevait dans le rétroviseur extérieur la procession des phares qui s'échelonnait dans une large courbe, interrompue parfois par l'ombre d'une stalagmite ou d'une avancée rocheuse.
On a roulé plus de 7 heures pour parcourir 30 malheureux kilomètres, soupira Moram. À ce train-là, on atteindra l'Île-de-France au printemps de l'année prochaine.
Il mourait d'envie de refermer la parenthèse de silence ouverte par ses deux passagers. Il avait bien essayé de parler avec Jazbet quelques instants plus tôt, mais elle ne lui en avait pas laissé le loisir. Elle s'était jetée sur lui comme une furie, et comme lui-même n'avait pas donné sa part au chien, il n'y avait eu de place entre eux que pour le langage des sens.
« Nous sommes à l'abri pour le moment, c'est le principal ?» dit Solman d'une voix distraite.
« À l'abri de quoi ?»
Des yeux du ciel. Sous terre, ils ne peuvent pas nous voir.
Les yeux du ciel, c'est quoi encore cette invention?
L'intelligence nous observe et anticipe nos déplacements comme si elle nous voyait de là-haut.
Comment c'est possible?
Solman haussa les épaules.
Quelque chose le tracassait depuis qu'il avait émergé de sa communication avec Khadija.
Une inquiétude sourde. Une sensation diffuse d'éloignement, de séparation, de nostalgie.
« Je ne sais pas, » répondit-il. « Peut-être la science des hommes de l'ancien temps. »
Moram donna un coup de volant pour contourner une énorme stalagmite, puis actionna la sirène pour prévenir les camions suivants.
Sans les aspérités du sol et les concrétions calcaires, le convoi aurait donné l'impression de rouler dans le vide. De temps à autre, les phares allumaient les pointes translucides de stalactites qui traversaient l'obscurité comme des étoiles filantes.
« Tu crois que cette intelligence a quelque chose à voir avec les hommes de l'ancien temps ?» demanda le chauffeur.
Apporter une réponse à cette question aurait sans doute résolu une partie du problème. Connaître son ennemi, son potentiel, ses intentions, aurait permis au peuple de l'eau de s'organiser, de choisir une défense appropriée. Les hommes de l'ancien temps s'étaient-ils arrangés pour parachever leur œuvre de destruction à travers le temps? Quel était le lien entre le passé de l'humanité et le monde de Khadija? La mémoire de la jeune femme contenait des souvenirs d'atrocités qui semblaient rattachés à la Troisième Guerre mondiale, mais trop de pièces manquaient encore pour reconstituer l'ensemble du puzzle. Solman restait dans l'incapacité de déterminer si elle était le 5e ou le 6e ange de l'Apocalypse. La boîte du malheur, selon l'expression de Raïma. Ou bien, si elle avait été envoyée afin d'aider les derniers hommes à échapper à l'extermination. Pourtant, il n'avait pas d'autre choix que de lui faire confiance. S'acharner à décrypter ses mystères, au risque d'entraîner les autres dans son erreur.
« Arrête-toi, Moram !»
Le chauffeur ouvrit des yeux étonnés.
« Pourquoi? Qu'est-ce qui ?»
Moram discerna une surface miroitante dans le lointain. Les phares éclairèrent une rangée de stalagmites qui bordaient une margelle de pierre, puis révélèrent contre une paroi plusieurs véhicules militaires alignés, camions et blindés, apparemment en parfait état.
« Tu penses qu'il y a des soldats dans ces engins ?»«
Il ne s'agit pas de ça, » dit Solman, oppressé. « Je dois retrouver Khadija.
Tout de suite. Je me demande si... On dirait de l'eau, plus loin. »
Et Moram, au lieu de freiner, donna un coup d'accélérateur. La lumière des phares étendit un voile doré sur la surface noire et frissonnante d'une vaste retenue d'eau.